Radio Foot International. CAN Total. Égypte 2019. Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI en cette période de CAN où on est tous un peu fébriles ici dans le studio. La CAN au stade des quarts de finale, mais le vrai fait nouveau est l'entrée en jeu de la VAR. L'assistance vidéo supervisera tous les matchs de la Coupe d'Afrique désormais, ce jusqu'à la finale le 19 juillet. Peut-on dire qu'une nouvelle compétition débute ? Sur la pelouse, les lions de la Teranga et les écureuils chercheront, l'un au détriment de l'autre, bien sûr, à accéder à la demi-finale. Les Sénégalais doivent montrer pourquoi ils sont favoris de cette CAN en Égypte, alors que les Béninois veulent poursuivre, eux, leur incroyable aventure. Quart de finaliste sans gagner un match. Juste après, les Super Eagles se joueront face aux Bafana Bafana, les Nigérians réguliers postulant au titre contre des Sud-Africains meilleurs de match en match qui, au sacrilège, ont éliminé les pharaons de Mo Salah. Que va-t-il se passer aujourd'hui, Habib Bey, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui va se passer, Habib, aujourd'hui?
Qu'est-ce qui va se passer? Le Sénégal va aller en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
Bon, j'imaginais pas que vous me disiez autre chose. Gilles Verdez, bonjour. Bonjour. Je suis sûr que vous dites pareil qu'Habib.
Bah, moi, je suis plus réservé, moi. Voilà, je suis plus superstitieux aussi, donc lui, il est plus rationnel.
Naïm Ognol, bonjour.
Salut Annie, salut à tous.
Radio Foot, c'est parti.
Ifa de Toul.
Si l'outil, la technologie, la VAR permet de voir quelque chose, on ne peut pas l'ignorer. Si nous avons un outil qui peut montrer clairement, sans le moindre doute, qu'il y a une position de hors-jeu, on ne peut pas l'ignorer.
Pour moi, il y a un immense malaise aujourd'hui. Immense malaise, effectivement, lié d'abord à la VAR. Il faut revenir à la source du problème. La VAR, c'est le mal absolu. On avait senti le diable dans le football, maintenant c'est fini.
Alors, je vous le dis, Dark Vador est dans ce studio aujourd'hui. Vous êtes reconnu, Gilles Verdez?
Oui.
Il le fait bien, hein,
ah, oui.
David et
ça,
Laurent, là, ils sont
peur.
Bien amusés. Et Alice Ménard aussi, d'ailleurs, parce qu'elle est complice maintenant, notre réalisatrice. Et puis, avant, c'était Colina, le responsable, l'Italien, si respecté et désormais responsable, voire obligé d'installer cette VAR un peu partout au nom de la FIFA. Une nouvelle compétition semble donc commencer en Égypte, non pas parce que donc ce sont les quarts de finale, mais parce qu'il y a cette fameuse VAR. La VAR qui sème la controverse là où elle est instaurée quand même, il faut le dire, et je crois que la Coupe du Monde féminine est là pour le prouver. Hier, Dominique Sévrac disait ici, on change la règle en pleine compétition. Dominique, c'est ce qu'il disait hier. Est-ce que Gilles, je suis sûr que vous êtes sur la même ligne?
C'est absurde, c'est-à-dire que ça fausse toutes les données. Jusqu'ici en plus, ça se passait bien. Que va-t-on là? Que diable la VAR va-t-elle faire dans cette galère? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va introduire un outil technologique qui va nous perturber? En plus, tout en reconnaissant qu'on n'est pas prêt. Donc ça me semble totalement absurde. Et effectivement, je n'ai pas souvenir d'une compétition dont les règles changent en plein milieu au moment des quarts de finale. Ça me semble choquant.
Naïm?
Bah oui, Gilles et Dominique ont raison, de fait, puis surtout qu'il y a deux arbitres européens qui vont venir essayer de former les arbitres africains, Monsieur Millot, le français, et puis Monsieur Van Boekel, le néerlandais. Donc il y a un côté, vous savez pas comment on met la VAR, mais on sait pas comment ça marche, alors on va se faire aider pour essayer qu'il y ait le moins d'erreurs possible. Bon, tout ça est très flou, très nébuleux. Mais bon, le foot africain a une histoire contrariée avec l'arbitrage vidéo depuis maintenant un petit peu plus d'un an, en espérant que ça se passe mieux sur cette CAN, parce que c'est aussi la réussite de la compétition qui est en jeu. Si la VAR fausse tout, vous ratez la CAN, quoi.
Habib, est-ce qu'on a une nouvelle compétition finalement qui commence sous l'œil de la VAR?
Je suis pas sûr qu'il y ait une nouvelle compétition. Il va y avoir une nouvelle attitude de la part des défenseurs, forcément, qui vont être beaucoup plus vigilants. Après, je rejoins mes amis qui disent que forcément on peut pas introduire un outil en cours de compétition. Par contre, ça change pas les règles du foot en lui-même. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on peut penser, c'est de dire bon bah alors tout ce qui s'est passé avant les quarts de finale en fait n'avait pas d'importance. Et puis là, maintenant que ça devient en quelque sorte important sur de l'élimination directe, sur des quarts de finale, on introduit un outil comme la VAR. Moi, je suis pour la VAR, mais pour toutes les compétitions, mais depuis le début, c'est-à-dire que dès qu'on commence. Pourquoi introduire un outil sous prétexte que ça devient très important de gagner un quart de finale ? Après, ça change pas les règles fondamentalement. Mais si aujourd'hui, on peut considérer que les arbitres africains ne sont pas formés, il faut malgré tout introduire l'outil qui soit aidé par... on s'en fout de savoir par qui ils sont aidés. Si ça peut résoudre des grosses erreurs. Non, ça fait pas sérieux, parce que là où je te rejoins, c'est que on a l'impression qu'on donne un outil à quelqu'un et on dit bon, par contre, on va te mettre un sous tutelle parce que tu t'es pas t'en servir.
Voilà. La CAF est d'ailleurs sous tutelle en ce moment, donc c'est un peu le problème. Mais moi, je m'interroge surtout, Habib, c'est pourquoi à partir des quarts de finale? Parce que on peut se dire allez, la phase de poule, bon, mais après les matchs à élimination directe, donc des faits de jeu peuvent transformer une qualification. Ok, mais pourquoi nos confrères dans la presse, et je citerai l'observateur Palga du Burkina Faso, il écrit aujourd'hui: pourquoi attendre l'écart? C'est une sorte d'injustice, parce que si elle avait été appliquée dès le premier tour, peut-être que ces quarts de finale n'auraient pas la configuration actuelle. On a renvoyé à la maison des équipes qui auraient peut-être pu se qualifier avec la VAR.
Mais puis pour les huitièmes de finale, le Ghana est un peu lésé, parce qu'il y a un but refusé pour une main qui a priori n'y est pas de partée. On aurait pu très bien voir le Ghana à la place de la Tunisie contre Madagascar. Mais initialement, je crois savoir qu'elle était prévue uniquement pour la finale. Et puis c'est au moment du comité exécutif qu'ils ont dit: sur la finale juste, c'est pas terrible, donc on va mettre à partir des quarts. Moi, je vous rejoins, on aurait pu la mettre dès les huitièmes, à partir des matchs élimination directe. Bon, c'est pas le cas, tant pis.
Moi, je pense que c'est surtout un problème économique. C'est-à-dire qu'apparemment, ils n'avaient pas les finances pour la mettre depuis le début de la compétition. Donc, ce qui prouve encore une fois, et on a souvent ce débat sur ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Afrique, ça prouve encore une fois qu'on a un football aujourd'hui sur le continent qui est en retard économiquement, qui est en retard sur beaucoup de choses. Et je trouve que gérer les choses de cette façon, en fait, montre encore une fois, on appuie sur le fait qu'on est en retard, on appuie sur le fait qu'on n'a pas de moyens, on appuie sur le fait qu'on n'a pas les mêmes moyens qu'ailleurs, et que c'est l'Afrique.
Ouais.
Et quand on continuera à faire ce constat, ce sera un constat pour moi d'échec.
Alors que la Coupe du Monde, en 2018, quand ça a commencé à être instauré, eh ben, c'était pour toute la compétition, Gilles. On se souvient d'ailleurs, le premier pénalty accordé grâce à la VAR était en faveur de la France.
Bien sûr, alors il y a un problème, vous citiez problème économique, il y avait aussi un problème logistique. C'est-à-dire qu'au premier tour, il y a énormément de matchs, donc il aurait fallu des VAR sur plein de stades, c'était difficile à installer, donc tout ça s'est ligué pour que la VAR ne soit installée qu'au moment des quarts où il reste très peu de matchs. Mais ça traduit une improvisation totale. Là où je ne rejoins pas Habib, c'est que il dit, ça appuie sur le fait qu'il y a un football à deux vitesses différent entre l'Europe et l'Afrique. Mais si vous allez au bout de votre réflexion, la VAR a tué le football universel, pas contre l'Europe et l'Afrique. Sur des stades de deuxième division, de national, il n'y a pas la VAR non plus. Donc de fait, la VAR a tué cet esprit, le même football pour tout le monde, que voulait à son époque Platini, c'est pour ça qu'il refusait la VAR. Donc moi, j'étais toujours sur cette ligne-là. À partir du moment où on met de la technologie et où tout le monde ne peut pas la voir, c'est une injustice universelle.
En tout cas, pour ce qui est des organisateurs de la compétition et donc de la Confédération africaine de football, il est sûr que dans les têtes, tant des organisateurs que des Africains, il y a cette finale récente de la Ligue des Champions à Tunis, où on a vu comment la VAR, qui n'a pas fonctionné, fait que théoriquement ce match doit être rejoué sur décision des instances de la CAF. Et hier, le secrétaire général Mouad Hadji assurait, donc c'était au micro d'Olivier Pron et de David Kalfa, qu'il n'y a rien à signaler, que tout a été anticipé.
Je peux vous assurer aujourd'hui que tout le matériel a été réceptionné et tout se passe bien. Il y a aussi des solutions de rechange au cas où il y a une déficience de l'un des systèmes. Donc pour l'instant, RAS, et tout se passe dans les meilleures conditions.
Pas de risque qu'il y ait un problème, ou alors porte ouverte aux polémiques maintenant, Gilles?
Le pauvre, on doit lui avoir donné des éléments de langage, il est devant le fait accompli, il doit dire ça, vous vous rendez compte, le matériel a été réceptionné. Là, je rejoins Habib, on a l'impression qu'ils ont réceptionné des conteneurs sur des cargos avec de la VAR dedans, qu'ils ont assemblé à la va-vite en disant non, il n'y aura pas de bricolage. Non mais là, c'est une pantalonnade, Annie, franchement.
Naïm?
Mais non, mais ils ont raison.
Le début des polémiques?
Début des polémiques, on va voir. Après, l'outil vidéo, c'est comment il est utilisé. S'il est utilisé par Perlin Pimpin et que c'est n'importe quoi, il y aura polémique. S'il est bien utilisé, correctement, c'est-à-dire pas à outrance et sur des situations où l'arbitre ne peut pas juger, ou alors comme le hors-jeu par exemple, comme un hors-jeu ou un but qui franchit la ligne, ça va. Si on commence à l'utiliser pour des contacts Et ceci et cela, là, ça laissera libre cours à l'interprétation, quoi.
En tout cas, on a pu les entendre, hein, ces auditeurs un peu mécontents chez Juan Gomez dans l'appel sur l'actualité où il parlait d'arbitrage partisan. Et puis, on se souvient après la Coupe du Monde, Habib, hein, de ce ressenti, notamment des Marocains, mais plus généralement dans les pays africains, où on avait l'impression que la VAR était à la fois partiale et malhonnête.
Mais elle l'a été parfois. Elle l'a été parfois. Là où je rejoins Gilles, c'est que sur le fait que on est sur aussi de l'interprétation, on en a déjà parlé. Mm-hmm. L'interprétation, elle sera toujours humaine. Donc elle est liée aussi à nos sensibilités. On n'a pas tous les mêmes sensibilités. On a pu voir qu'à travers la Coupe du Monde féminine, on a testé cette nouvelle règle de la main, où on voit des mains qui, concrètement, partout. La personne qui arrive à 1,5 mètre de prendre un ballon, qui arrive à presque 100 km/h à enlever sa main, je lui dis bonne chance. Mais en même temps, la problématique qu'on va avoir, c'est que à partir du moment où on aura cet outil vidéo qui sera en plus utilisé avec des ralentis qui sont accentués, des super loupes, bah forcément, lorsque vous regardez cette image, vous vous dites, ah, oh, bah, y a main. Oui, sauf que, à un moment donné, il faut remettre ça dans le contexte du football, dans le jeu, dans ce que le jeu demande, dans la vitesse qu'a le football aujourd'hui, dans l'esprit du foot, dans tout ce qui, en fait, intègre le football depuis, mais maintenant, une centaine d'années, pas depuis 10 ans. Et ça, c'est une problématique. Donc, j'espère pour l'Afrique, et j'espère pour le continent africain, que ça va bien se passer avec ces quarts de finale, qu'elle sera utilisée pour des bonnes choses et qu'elle sera utilisée pour des injustices, parce que c'était ça, au départ, la VAR, c'était pour enlever toutes les injustices que le football a connues.
Et pas d'en créer.
Et pas d'en créer.
Gilles, et puis, pour moi, terminer. Ce que j'ai adoré dans tous ces matchs du premier tour et les huitièmes, certains n'étaient pas flamboyants, mais il y avait une continuité et il n'y avait plus ces arrêts de jeu monumentaux. Et moi, j'ai toujours dit que l'un des problèmes de la VAR, c'est que ça tuait la continuité du foot. On arrivait à un football américain où vous avez des coupures vidéo, des stops, et vous verrez que dans 2 ans, on reviendra faire le débat, il y aura ensuite de la pub. C'est-à-dire que pendant qu'il y aura la VAR, vous verrez très bientôt qu'il y aura de la pub qui passera, et ça permettra au football de faire le jeu des sponsors, des publicitaires, mais pas des spectateurs ni des téléspectateurs.
Bon allez, on quitte les caméras et les arbitres pour descendre sur le terrain, parce que du côté du Bénin, on est très fébrile. Qu'est-ce que vous chantez, vous, Habib?
Moi, je chante rien, je suis trop tendu, là. Pour l'instant, je chante rien. Je chante à la fin des matchs, en ce moment.
En tout cas, la folie et la joie au Bénin, vous venez de l'entendre, et c'est ce que sèment dans leur sillage les écureuils, et pas que des noisettes, donc des écureuils qui vont entrer sur la pelouse dans une 40 minutes maintenant. Et pour cette rencontre Bénin-Sénégal, lions et écureuils face à face, et on l'a vu, vous l'avez vu, hein, Habib, le gentil petit écureuil, il peut des fois se transformer
Il mange du lion en ce moment.
En lion,
c'est
voilà.
C'est pas une bonne chose.
Hein, free lion, ils disent, maintenant, parce qu'ils en ont déjà mangé.
Oui, et puis en plus, en même temps, il y a l'insouciance, il y a la confiance, il y a le fait que, comme vous l'avez dit, ils sont en quart de finale sans avoir gagné un match. Et puis, ne pas oublier une chose, c'est qu'ils ont Michel Dussuyer à leur tête. Et c'est un entraîneur qui est aujourd'hui en Afrique, un sélectionneur qui connaît très, très bien ce continent. Et mine de rien, même s'ils n'ont pas gagné de match, je trouve qu'il y a eu toujours une cohérence dans les matchs du Bénin. Alors, il n'y a peut-être pas eu de titre, il n'y a pas eu d'occasion. Mais moi, j'ai regardé une équipe qui a été structurée, elle a été structurée défensivement, et ce sont des choses qui me plaisent aussi.
C'est une équipe qui est plus solide que le Nigeria.
Sur la page Facebook, alors les auditeurs internautes se chambrent gentiment, alors notamment, eh bien, évidemment, c'est les Béninois, hein, puisqu'ils sont un peu les inattendus de ce stade. Prudence Bokovo de Cotonou ironise, ce que le lion ne peut, l'écureuil le fait. Et puis alors, il y a Brice Azungumbo à Chicago qui nous écrit, j'aime quand on sous-estime le Bénin, car les détracteurs finissent toujours par pleurer à la fin comme les Marocains. Je n'ai même pas vu un seul joueur sénégalais capable de stopper le TGV béninois. Bon, alors évidemment, on y met du cœur. Ces lions de l'Atlas et Indomptables sont donc tombés avant. Mais ce qu'on peut constater dans les statistiques, c'est que les lions de la Teranga n'ont perdu aucun de leurs 4 derniers matchs face au Bénin.
Oui.
Ils ont, disons, les stats pour eux. Rémi aime bien ça, mais
oui, il y a les au-delà. Alors, il y a les statistiques, et c'est vrai que je rejoins Habib sur cette équipe du Bénin qui n'est pas qu'un hasard de la compétition. Il y a une compacité défensive et une volonté ensuite de se projeter collectivement. Il y a une âme, il y a un esprit dans cette équipe. Et le problème du Sénégal, c'est que il y a quand même beaucoup de blessures ou de joueurs qui ne sont pas en état de forme. Voilà.
Depuis le début.
Voilà, exactement. Une fois aligné, donc là, il y a Sarr, Alfred Ndiaye, incertain.
Crépin Diatta,
voilà, Crépin Diatta et ses maux de ventre, il serait là. Mais voilà, il y a quand même le changement de gardien de but. Bon, c'est une équipe qui va crescendo, qui est favorite, mais qui effectivement, au niveau de l'état de forme, inspire quand même parfois une certaine fébrilité.
Je suis pas d'accord pour dire qu'elle va crescendo. Crescendo, c'est tu commences bas, tu vas plus haut. Ils ont fait un super premier match contre la Tanzanie, puis derrière, c'est quand même un peu étiolé. Il y a plus de match facile pour le Sénégal. Ils perdent contre l'Algérie. Ça a été difficile tout le match contre le Kenya. C'est difficile tout le match contre l'Ouganda. Alors évidemment, ils sont favoris. Moi, je le dis.
Mais c'est difficile pour tout le monde, la CAN.
On est bien d'accord. Bah, pas pour l'Algérie.
Sauf l'Algérie.
Il y a un effectif, évidemment, pléthorique et tout va bien de ce côté-là. Il y a des bons joueurs, quand il y a un absent, il y a un mec toujours qui va remplacer des joueurs de haut niveau. Après, faut voir aussi comment ils vont gérer la pression, parce qu'aujourd'hui, pour le Sénégal, c'est ça. Le Bénin, il a réussi sa canne. Le Bénin, il sort invaincu d'une poule avec le Ghana et le Cameroun, il élimine le Maroc.
Le président Talon leur a dit, on vous fera la fête. Bah, quoi
ils ont réussi la canne. Le Sénégal, je le souhaite pas, il est éliminé ce soir. C'est un échec. C'est un échec retentissant, vu l'effectif qu'ils ont. Voilà. Donc il y a la pression, et aujourd'hui, le Sénégal, son combat, c'est pas le jeu. Son combat, c'est pas d'être bon machin, parce qu'on sait qu'il a les joueurs, on sait qu'il a le potentiel. Le combat, c'est contre lui-même. C'est comment tu gères la pression dans une compétition où t'es de plus en plus favori, de fait, parce que l'Égypte, le Maroc, le Cameroun, tout le monde est sorti.
Mais on a payé pour apprendre, malgré tout. On a payé pour apprendre lors de la CAN 2017 face au Cameroun. On a justement subi cette pression et on n'a pas été capable de mettre en difficulté les Camerounais. On perd au penalty. On a payé également pour apprendre en Coupe du Monde lorsqu'on gagne notre premier match face à la Pologne et ensuite match nul contre le Japon et on est incapable de faire un nul contre la Colombie où on perd ce match. Donc je crois qu'il y a eu aussi des événements qui ont marqué cette équipe sur lesquels Aliou Cissé a travaillé. Moi je discutais un petit peu avec eux et je pense que cette équipe aujourd'hui, en tout cas dans les moments difficiles, a malgré tout montré, à part contre l'Algérie, j'avais parlé justement de ce problème mental qu'ils avaient montré contre l'Algérie. Ensuite, c'est vrai que ça a été difficile contre l'Ouganda, mais malgré tout, t'as vu une équipe qui a fait front contre le Kenya aussi. Mais en même temps, Gilles l'a dit, moi j'ai joué 4 CAN, j'ai jamais connu une CAN où j'ai eu un match facile, quoi. Mm-hmm. Et peu importe qui tu joues, Donc c'est sûr que les Sénégalais sont sous pression parce qu'ils sont ultra favoris de cette rencontre. Et puis les Béninois, ils sont surtout sur des aspects de dire que tout est réussi. Donc insouciance et ils vont être libérés.
Alors le match est évidemment très attendu dans les capitales respectives. On va se plonger dans l'ambiance de Dakar. Habib, Guillaume Thibault, le correspondant de RFI, a promené son micro hier dans les rues de la capitale et vous allez voir le résultat. C'est très sympa.
Le Sénégal va gagner 2-0, Inch'Allah.
But de qui?
Baïdien, Sadio Mané.
Vous avez peur des Béninois?
Pas du tout. On est des Guindés, des vrais lions.
Et vous, jeune homme, c'est quoi le score?
2-0. Les Béninois ont montré qu'ils savaient jouer au football, mais bon, l'écureuil et le lion, attendez. Il n'y a pas photo, hein?
Sénégal-Kenya, on va gagner.
Sénégal-Bénin.
Ah, Sénégal-Bénin, oui, nous on est impressionnés parce qu'on a dit que c'est l'année le plus possible pour prendre la coupe.
Bonjour mesdames, je vais faire un sujet capital, très sensible. Qui va gagner le match?
Le Sénégal! Et puis Sadio est là.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?
On n'a pas peur. Certes, le Bénin, c'est une équipe aussi qui s'est remarquée, mais on fera le nécessaire.
Si le lion monte derrière l'écureuil, il a une chance de tomber de l'arbre. Vous y croyez?
Non, on n'y croit pas.
Bon, Habib, ils sont tous derrière vous, là.
Ils sont tous derrière le Sénégal, ils sont tous derrière nous. Et c'est même monté aussi au niveau de Dakar, c'est monté au départ. Il n'y avait pas forcément beaucoup d'engouement. Moi, j'étais juste avant la compétition là-bas. Et puis là, forcément, au vu des résultats, au vu du tirage, au vu du fait que les favoris, l'Égypte, le Maroc, le Cameroun sont tombés, il y a un regain d'espoir qui est arrivé au sein du peuple sénégalais. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, ça commence à monter. Moi, je parle avec des gens au Sénégal. Ils se réunissent lors des matchs dans des restaurants ou dans des endroits où justement ils peuvent regarder et on espère que, comme je l'ai demandé à Sadio en direct justement sur Canal Plus International, je lui ai dit moi je veux pas te revoir avant le 20 juillet à Dakar avec la coupe, donc voilà, il a une mission et il faut qu'il
parce que vous allez être obligé d'y aller là, Habib,
s'il gagne la CAN, je suis obligé.
on va avec vous là.
C'est vrai que cette partie du tableau, elle est historiquement dégagée. C'est-à-dire que le Sénégal là est face à un cas de figure où on a l'impression que le tableau se libère devant lui. Mais pour les Sénégalais, c'est pas forcément une force. Alors, il y a pour moi un maillon essentiel sur ce match. Habib a prononcé son nom. C'est le coach. C'est Aliou Cissé. S'il y a un match, c'est celui-là. C'est son match. Parce que quand même, sur certaines compétitions, le manque de transcendance, le manque d'appétit, le manque de pugnacité sur certains matchs, moi, je lui impute directement. J'ai dit sur votre antenne. Donc là, c'est à lui d'inculquer cet état d'esprit, de faire de vrais lions, et de les faire gagner, parce que ça se jouera sur le mental.
Et de bien gagner, oui, sans temps de te rassurer.
Juste de gagner. Public. Juste de gagner.
Si on peut donner un motif d'espoir supplémentaire au Sénégal, c'est qu'ils
l'appétit
vont être privés.
L'appétit vient en mangeant, on peut dire,
voilà,
Gilles.
Ils vont être privés de, le Bénin va être privé de Khaled Adenon, oui. L'Amiénois, qui a été expulsé au match précédent, qui ne jouera pas, c'est quand même le patron de la défense.
Ouais.
Donc ils vont récupérer Steve Mounier devant, mais ils vont perdre le patron de la défense. Quand on sait que c'est une équipe qui fonde quand même beaucoup son jeu sur la solidité
défense.
Derrière. Il y a peut-être un motif d'espoir supplémentaire.
Écoutons justement l'ambiance dans les rues de Cotonou. Ça, c'est grâce à Jean-Luc Aplogan, le correspondant de RFI.
Là, un match de poule. Et on a pu faire un match nul avec le Ghana et le Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est un lion. On a pu battre le Maroc aussi, qui est un lion. Et maintenant, le Sénégal, c'est un lion, le troisième lion. Bon, comme on a pu battre, bien sûr, 27 de Lyon, donc on a encore de l'espoir pour pouvoir gagner le Sénégal à 1-0.
À voir la prestation des écureuils depuis la phase de poule, je suis très convaincu que le Bénin va battre le Sénégal demain. 1-0 en faveur du Bénin. Le Bénin d'aujourd'hui, nous avons évolué en matière de prestation, de technicité et aussi de joueurs.
Ah ben ce match-là serait un peu dur, mais l'équipe béninoise va gagner enfin. 2-1, c'est notre tour, c'est le tour du Bénin. Nous sommes déjà en joie, on sait qu'on va battre le Sénégal, il n'y a rien à faire. Le Sénégal est devant nous largement en matière de football. Mais nous-mêmes, nous le savons, mais pour être grand, il faut passer sur le grand. Et c'est le moment. Le Bénin va piétiner Sénégal, Lyon de Teranga, Écureuil va le ligoter, Inch'Allah.
2-1, on fait des Écureuils.
2-1, en fait des Béninois.
Je suis Béninois, non? Je suis pas de mon équipe.
En ligoter les lions, Aviv.
Oui, enfin, si un écureuil ligote un lion, moi, je veux bien, pour l'image, je veux bien, mais.
C'est une jolie image.
En réalité, ça va être compliqué.
En tout cas, c'est amusant parce que ces écureuils qui aimaient pas s'appeler des écureuils, je pense que là, ils ont un peu immortalisé le côté fonceur et le côté on a peur de rien.
Oui, c'est le côté le petit.
Voilà.
C'est
exactement.
David et Goliath, enfin, c'est toute la fable légendaire.
Exactement.
Voilà, ils sont attachants. Il y a ce côté effectivement équipe inattendue, il y en a d'autres, il y a par exemple Madagascar, mais c'est vrai qu'il y a un côté tellement surprenant qu'on se prend d'affection. Et eux effectivement, ils sont libérés, on a l'impression que ils sont portés par une sorte d'allégresse et par des forces internes qui font qu'ils peuvent aller loin, ouais.
Une incroyable communion donc autour de ces équipes nationales. Habib, alors les clés du match pour les Lions.
Bah les clés du match.
Est-ce
pour
qu'ils
les
vont
Lions...
se casser les griffes, les dents?
Non, c'est surtout sur pas faire preuve d'impatience lorsque vous jouez ce genre d'équipe, parce que je suis pas sûr que le Bénin ait des ambitions de contrôler le jeu, d'être offensif. On l'a dit, ils sont bien regroupés. C'est vrai que ça va très très vite, ça explose très très vite vers l'avant. On les a vus différents d'ailleurs en l'absence de Steve Mounier sur leur match en 8e de finale. Donc là, ils vont avoir un point d'appui. Ils se servent de ce point d'appui justement pour se projeter. Nous, il faut pas qu'on soit impatient. Et je trouve que par exemple contre l'Algérie, la problématique qu'on a rencontrée, c'est qu'on a été incapable en fait de contrecarrer les plans tactiques qu'avaient mis en place Jamel Belmadi et l'Algérie. Et ça, c'était un manque pour moi de maturité tactique dans l'approche du match. C'était un manque aussi de mental, parce que lorsque vous êtes face à la difficulté, il faut aller dans ses ressources mentales pour justement essayer de subir ce qu'on vous impose et essayer de contrecarrer les plans de l'adversaire. Donc, je pense que le Bénin peut nous poser des problèmes sur l'aspect défensif, et ensuite il faudra que nous on soit patient, on sait qu'on a des qualités, jouer notre jeu, ne pas s'exciter parce qu'on n'arrive pas à marquer trop vite, parce que c'est un petit peu ça lorsque vous êtes un favori. Regardez l'Égypte, c'est exactement ce cas-là, c'est-à-dire que l'Égypte commande son match, le stade est plein, et puis le match avance, et puis au bout de 45 minutes on voit de la frustration chez certains joueurs, on voit Mohamed Salah qui commence à grimacer dès qu'on lui donne pas le bon ballon, et cette frustration elle monte, et l'adversaire le voit, le perçoit, et puis derrière vous avez cette équipe d'Afrique du Sud qui arrive à sortir et marquer. Ça peut être le même match par exemple pour aujourd'hui le Sénégal, avec la différence qu'ils n'ont pas les mêmes qualités que l'Afrique du Sud.
Parce que l'Afrique du Sud avait bien joué dès la première mi-temps, avait monté très vite, s'était procuré des occasions.
On va y venir à l'Afrique du Sud.
Si le Sénégal en fait joue comme contre l'Ouganda, c'est-à-dire arrive à marquer rapidement, c'est plié, parce qu'ils n'auront pas les armes, le Bénin, pour monter souvent tout le long du match comme ça, essayer de machin. Et après le Sénégal pourra jouer en contre.
Et surtout peut-être Gilles, ce qu'on a vu au moins sur le dernier match, c'est que Sadio Mané est bien là. Alors je parle pas des pénaltys, mais Sadio Mané est bien là et il est là. On se souvient du 1 contre 1 contre le gardien qu'il a brillamment réussi comme il fait quand il est avec les Reds, donc c'est aussi l'arme fatale.
à l'arme fatale. Et puis, pour moi, ce n'est que mon point de vue, mais je vous le donne, il est à 3 matchs de possiblement le Ballon d'Or. C'est-à-dire que si jamais... Bah, attendez, si le Sénégal gagnait la CAN, lui, joueur de Liverpool, il aurait tout gagné. Mm-hmm. Vu les mésaventures de Messi, vu, etc., ce qui se passe, vu Salah éliminé, bon, il y aura peut-être Van Dijk, effectivement, comme protagoniste, mais il deviendra un protagoniste du Ballon d'Or. Donc, quand on est dans sa position, à 3 matchs de devenir un protagoniste sur le podium du Ballon d'Or, on porte son équipe.
Moi, je pense que c'est plus sur le Ballon d'Or africain qui serait, pour moi, si Sadio Mané gagne la CAN, il entérine le football, le Ballon d'Or africain.
Oui,
ça, c'est
ça,
une
certitude
qu'il a perdu sur les deux dernières années face à Mohamed Salah, quand même, dont le dernier
là,
à Dakar.
Doute. Mais Habib, pourquoi en rester au Ballon d'Or africain,
guillemets? Parce que je vais mettre un petit peu, je vais taper dans la fourmilière, si tu veux, mais. Aujourd'hui, tu sais à quel point les footballeurs africains ne sont pas reconnus sur ce trophée.
D'accord.
Et que je pense qu'il faudrait que Sadio soit en septembre, octobre, novembre, décembre, incroyable en Ligue des Champions avec Liverpool, incroyable en Première Ligue, pour qu'on puisse lui donner le Ballon d'Or. Rappelle-toi de son classement l'année dernière, au vu de la saison qu'il avait fait. C'est un petit peu incohérent, mais ça, on en reparlera sûrement.
David Finzel s'est amusé à lancer un sondage sur la page Facebook de Radio Foot. Et bien, sur 2000 votants, le Sénégal est donné gagnant à Bib avec 1400 votants, le Bénin par 600 votants. Alors bon, je sais pas si il y a eu autant de votants d'un côté et de l'autre, mais en tout cas, voilà ce qu'il en était. Et d'ici peu, donc, nous retrouverons nos envoyés spéciaux, commentateurs Olivier Pron et Frédéric Suto avec Joseph Antoine Bell pour les commentaires. Et n'oubliez pas, sur africefoot.fr, David Kalfa est là et vous raconte tout. Ensuite, eh bien ensuite, il y aura Nigeria, Afrique du Sud, et on en parle tout de suite. Ils ont chanté et dansé, manifestant leur joie au nez et à la barbe des Égyptiens qu'ils venaient d'éliminer au stade international du Caire devant leur public et 74 000 supporters. Donc, des Sud-Africains passés en 8e de finale en étant les moins bons des meilleurs 3e. Mais leur qualification les a métamorphosés. Ils ont été bons pratiquement d'entrée de jeu. Ils ont marqué en fin de partie, crucifiant les espoirs des pharaons. Et ils ont bien conscience de mieux jouer qu'au début. Le gardien de but des Bafana, Ronwen Williams l'a concédé au micro d'Hugo Moissonnier.
Nos débuts ont été timides, je ne cherche pas d'excuses, mais notre préparation n'a pas été très bonne avec un seul match amical contre le Ghana. C'est en fait le premier tour qui a fait office de préparation. Plus nous avançons, mieux nous jouons. À chaque match, vous voyez notre confiance augmenter. Le sélectionneur a trouvé la bonne formule. Nous avons travaillé sur nos faiblesses, car nous savions dès le départ que nous pouvions nous améliorer. Nous avons tout d'abord été solides, défensivement. Mais contre l'Égypte, nous avons montré de belles choses sur le plan offensif. À présent, tout va bien, et nous espérons être encore plus performants pour la suite du tournoi.
Donc les Bafana Bafana invités inattendus, on peut dire, face à d'éternels favoris que sont le Nigeria, les Super Eagles, triple vainqueur de la compétition. Alors ces Bafana reviennent-ils sur la pelouse pour créer l'exploit? Christophe Jousset, c'est vous qui allez commenter le match ce soir notamment. Bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors Christophe Jousset, quelles sont les armes pour vous des Bafana pour vaincre les Super Eagles, ou quels sont les atouts de ces Super Eagles pour s'en sortir ?
Eh bien d'abord, faut dire que les Bafana Bafana reviennent sur la scène du crime, parce que c'est ici, dans ce même stade, où l'on vient d'arriver avec Hugo Moissonnier, avec Farid Achache, qu'ils ont déboulonné les pharaons, les Bafana Bafana. Alors aujourd'hui, il y aura quand même un peu moins de témoins que l'autre fois. Il y a beaucoup moins de public pour ce quart de finale. Et c'est vrai que ça se sent tout de suite. D'ailleurs, ça nous met d'excellente humeur, parce que on vient juste d'arriver au stade un peu plus de 3 heures avant le coup d'envoi, et la sécurité... Alors là, c'est open, hein, c'est un petit contrôle vite fait. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu sur les premiers matchs avec l'équipe nationale d'Égypte. Bref, pour revenir à votre question, ce qui peut les mettre dans une position favorable, les Bafana Bafana, bah, c'est leur élan, tout simplement, parce que c'est vrai que le favori, il est dans l'autre camp, il est nigérian. Très clairement, même si on va y revenir, les Nigérians ont aussi leurs préoccupations et leurs difficultés.
Un match après un premier tour terne, un huitième de finale très abouti, avec en vedette notamment le petit Lorch, qui est celui qui a marqué à 5 minutes de la fin du temps réglementaire et qui a donc bouté hors du tournoi Mossala et ses petits copains. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Lorch est le meilleur joueur du dernier championnat d'Afrique du Sud. Il compte très très peu de sélections. Et c'est lui qui est allé tromper le gardien égyptien Al-Shenawi l'autre jour. Alors, on va voir si Spartakster maintient exactement l'équipe qui a fait l'exploit, ce serait la logique, ou s'il revient à un Zouané tel qu'on l'avait vu sur l'aile pour les trois matchs du premier tour. Bon, a priori, Lorch aura sa chance. Lui, le petit, 1m66 seulement, le petit ailier qui a fait des débuts presque fracassants dans cette équipe d'Afrique du Sud.
Ah oui, ça, sans doute que les Égyptiens ne sont pas prêts d'oublier son nom. Habib, entre ces Bafana Bafana qui, un peu comme les Béninois, n'ont rien à perdre et viennent là pour surprendre, et puis les Super Eagles qui, eux, je dirais, se doivent de passer en demi-finale, ça va être compliqué.
Non, je trouve que ça va être intéressant parce que cette équipe d'Afrique du Sud, j'ai l'impression que personne ne les voit arriver dans toutes les compétitions qu'ils ont à jouer. Moi, je trouve que c'est l'une des équipes qui, en Afrique, contre le mieux, qui va aussi à chaque fois qu'ils sortent, ça sort à une vitesse, c'est assez incroyable. Il y a la qualité technique, à l'image du but qu'ils mettent contre l'Égypte. Je trouve qu'ils ont plus d'arguments que le Bénin, clairement. Après, ce qui m'a surpris par contre contre l'Égypte, c'est leur capacité à défendre, leur capacité à ne pas être en difficulté, et surtout dans une ambiance comme il y avait ce jour-là, à être capable d'endosser cette pression et de tourner le match à leur avantage. Parce que quand on regarde le match sur les 90 minutes, moi, pour moi, il y a rien à redire. Que l'Afrique du Sud gagne contre l'Égypte, c'est pas un hold-up, c'est pas pour moi quelque chose d'exceptionnel. Ils ont pour moi dominé le match, ils ont été bons collectivement et surtout ils ont contré cette équipe. Donc ils sont capables de faire la même chose face au Nigeria, mais Nigeria, ça fait partie de ces équipes qui ont peut-être démarré doucement, mais qui petit à petit, l'institution, la force des Nigérians, cette efficacité qu'ils peuvent avoir avec des joueurs de qualité devant. Ça peut faire la différence dans ces grands matchs, parce que ce qui paye, et ça on en parle souvent avec Naïm et Gilles, ce qui fait la différence dans ces grands matchs en général, c'est aussi le talent. Et ce talent, ils l'ont, les Nigérians.
Naïm. C'est marrant parce que moi, ce qui m'a surpris face à l'Égypte, c'est la capacité de l'Afrique du Sud à se créer autant d'occasions. Parce que sur la phase de poule, en fait, c'est une équipe qui tirait jamais au but, qui était finalement pas beaucoup dangereuse. Alors c'est
peut-être
vrai que
un peu timoré.
Voilà, un peu timoré, elle était solide
timide,
derrière,
hein,
mais
dit.
Là, j'ai trouvé qu'elle arrivait à se trouver facilement, à se créer des occasions, à tirer au but, à rentrer dans la surface. Et le Nigeria, justement, Ali le disait, c'est que c'est quand même une équipe qui a des certitudes devant parce qu'il y a des super joueurs et personne ne dira le contraire, c'est un talent individuel monstre. Mais alors derrière, qu'est-ce que c'est fragile, qu'est-ce que c'est fébrile. Le Cameroun a été maladroit sur son 8e de finale parce que finalement, ils auraient pu à la mi-temps mener déjà 2-3 buts d'écart. Donc l'Afrique du Sud, le coup qu'elle a joué, si elle, je pense qu'il va remettre la même équipe, en tout cas son même système, son même 4-4-2. Dans l'idée, si l'idée c'est de jouer comme contre l'Égypte, là ça va être intéressant parce que l'Égypte allait passer à la trappe, mais elle avait un socle défensif quand même costaud, ce que n'a pas le Nigeria notamment.
Christophe, justement, le Nigeria, alors eux, ils sont, je dirais, au rendez-vous, et on se souvient d'un joueur qui a marqué le match face au Cameroun, c'était le fameux Idago qui joue en Chine et qui là, a agréablement surpris.
Oui, Odion Ighalo, le meilleur buteur des éliminatoires, sur l'ensemble des éliminatoires africaines de cette CAN 2019, et qui en est déjà à 3 buts, autant dire qu'il est à égalité avec d'autres en tête du classement des buteurs. Quand même, face au Cameroun, après avec cette victoire 3-2 en 8e de finale, Ighalo a délivré 2 buts et une passe décisive. Donc c'est lui l'homme de cette victoire contre le Cameroun, où effectivement, devant, ça a été très bien, et derrière, c'est friable, c'est vulnérable, et on voit quand on regarde les compos d'équipe depuis le début que Garnotror n'arrive pas à aligner deux fois de suite la même charnière centrale, la même défense, que derrière Akpeyi a fait des choses très inquiétantes, que donc sur l'ensemble du secteur défensif il y a des points faibles que vont sans doute chercher à exploiter les Sud-Africains en confiance après leur exploit contre l'Égypte.
Merci beaucoup Christophe d'avoir été en direct avec nous. La communication, excusez-nous, était parfois un peu compliquée, mais en tout cas, merci beaucoup Christophe, et on vous retrouvera, ce sera à partir de 20h47, heure de Paris, avec Hugo Moissonnier et donc Farid Achache pour suivre ce match. Et on vous dit bien bon match, Gilles, sur cette rencontre entre les Super Eagles et les Bafana Bafana.
Ces deux équipes s'affrontent beaucoup lors des phases éliminatoires, mais en phase finale de la CAN, il y a eu deux matchs et le Nigeria a gagné deux fois. Pour moi, le Nigeria, c'est l'équipe qui est très difficile à contrer. Il y a eu cette faiblesse au premier tour sur un match que personne n'a pu lire. Mais je pense
qu'il y avait
eu
beaucoup de changements, on s'en souvient.
Il y avait eu beaucoup de changements.
Même si Rohr ne le concédait pas trop.
Et je pense qu'in fine, ces rotations peuvent payer. Moi, je miserais sur le Nigeria.
Gilles, le Nigeria, il y a un talent qui est fabuleux devant, on l'a dit. Mais c'est une équipe qui est très désorganisée. C'est rarement ensemble. Non, c'est rarement ensemble. C'est que tu as beaucoup d'individualités très fortes. On parlait d'Igalo, Iwobi, Musa, Simon Moses, pas de souci. Mais c'est une équipe qui est très désorganisée. Et en fait, si t'es intelligent en face, t'as même pas besoin d'être fort. Si t'es intelligent, t'as déjà un avantage sur eux.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce Radio Foot. On va laisser la parole à nos amis qui sont donc dans le stade du 30 juin au Caire. Olivier Pron, Frédéric Suteau, Joseph-Antoine Bell et David Calfa. Mais pour l'instant, je vous laisse en compagnie de Tom Rossi. Merci Tom et merci aussi à Laurent Salerno à la réalisation aujourd'hui, à Alice Mena et surtout aussi à David Finzel. On vous dit à tout à l'heure, bien sûr. Bonjour Tom.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
En direct de la Coupe d'Afrique des Nations Total, Égypte 2019.
C'est donc parti pour les quarts de finale de la CAN. Vous venez d'en parler avec vos consultants, Annie. Quatre matchs au programme aujourd'hui et demain. Quatre matchs à suivre sur RFI, évidemment, vous en avez l'habitude. Et ça commence par ce duel ouest-africain entre le Sénégal et le Bénin. Entre l'un des derniers grands favoris encore en lice et l'un des petits poussets. Un combat déséquilibré sur le papier entre lions et écureuils que vont commenter avec passion, comme toujours, Olivier Pron, Frédéric Suteau et Joseph-Antoine Bell en direct du stade du 30 juin au Caire. Bonjour messieurs.
Bonjour Tom, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Suteau, bienvenue au Caire.
Bonjour Tom, bonjour Olivier. Effectivement, on est à Ismaïlia, rapatriement ici au Caire, puisqu'on a...
Plié, vous avez fermé là-bas Ismaïlia.
Fermé avec le huitième de finale Tunisie-Ghana et maintenant c'est là que ça se passe. Hein.
Ouais, vous nous laissez à Ismaïlia, prolongation et tir au but. Jo, pas de chapeau aujourd'hui, Jo est venu dégarni, je vous le dis tout de suite, attention, c'est comme ça. Boubou est dégarni.
Pas du tout. Jamais dégarni, le chapeau il est là.
Sacrée chemise quand même Jo, sacrée chemise.
Ah oui, sacrée chemise, mais c'est une chemise caf. Elle est très jolie et si c'est pour la photo.
Allez, on vous de trois, le selfie en direct sur Facebook,
sur la page Mondial Sport,
Instagram, c'est parti.
Voilà, ils savent tous les auditeurs. Vous pouvez aller voir ça sur la page Facebook de Mondial Sport. Vous en aurez deux pour le prix d'un. Les confrères derrière, David Calfa aussi. Félix Pépéripé n'apparaît pas sur la photo, mais vous l'entendrez crier derrière nous, bien sûr, comme de coutume.
À chaque but béninois, et Dieu sait qu'il va y en avoir. Oui, est-ce qu'on a un match, hein, quand même?
Oui, dites donc, il paraît. C'est le premier quart de finale de cette CAN, m'a-t-on dit?
Le premier des quatre.
Le Sénégal face au Bénin, waouh, quelle affiche. Derby ouest-africain.
Derby ouest-africain, une équipe favorite. Le Sénégal, les Lions de la Teranga, ils faisaient partie des favoris avant même le début de la compétition, le début de cette CAN, hein, Tom nous le disait, au même titre que des Marocains, des Égyptiens. Bien, le Sénégal est toujours là, en course, même si dans le jeu, hein, on aura l'occasion de le dire, les Lions de la Teranga peuvent mieux faire. Hein. Il y a eu des poules menées habilement, mais une défaite tout de même en poule, deuxième match face à l'Algérie. Ensuite, on s'est rassuré face au Kenya. Et puis ce huitième de finale... géré en père de famille, on va dire, victoire oui. Face à l'Ouganda, 1-0, but de Sadio Mané qui s'est permis de manquer un penalty. Donc oui, les Lions de la Teranga sont là au rendez-vous des quarts de finale. Pour l'instant, on ne leur en demandait pas plus. Il faut avancer dans le tableau. Et en face, effectivement, c'est cette équipe du Bénin, les écureuils, petit poussé, si l'on veut. Il y a Madagascar hein, quand même qui est encore là et qui retrouvera la RDC qui a éliminé la RDC Madagascar et qui prépare son quart de demain face à la Tunisie. Les écureuils du Bénin, ce qui sera intéressant, Olivier, Jo, c'est de voir dans quel état physique déjà les joueurs vont être cet après-midi. Alors ils ont eu un peu plus de récupération qu'entre la fin du premier tour et leur huitième de finale où là il avait fallu enchaîner le huitième face au Maroc avec seulement deux jours de récupération. Mais ce match face au Lion d'Atlas, la prolongation, les tirs au but, il pourrait avoir laissé des traces.
Ah oui, c'est certain. Mais enfin, maintenant, c'était quand même il y a quelques jours, Jo. Qu'est-ce que voilà. Vous en pensez? C'est vrai qu'ils ont eu le temps de digérer, même si les Sénégalais, eux, ne se sont pas employés.
Et ils ont. Bon, Ça, c'est... Non, je pense qu'ils ont eu le temps. À partir du moment où vous passez 72 heures, votre corps a totalement récupéré, que ce soit 72 ou beaucoup plus, vous ne pourrez pas. C'est comme avec votre poule, dès qu'il a atteint le niveau le plus bas, il ne peut plus descendre, sinon vous êtes mort.
Il y a un moment qu'il n'est pas monté, le mien, quand même.
Donc, ils ont parfaitement récupéré. Et aujourd'hui, je sais qu'en plus, ils ont récupéré de la fraîcheur psychique. Dans les têtes, ils sont frais. Et ils sont d'autant plus frais qu'ils ont, je crois, déchargé tout ce qui pouvait peser sur eux. La pression, les espoirs, ils ont dépassé tous les espoirs. Donc aujourd'hui, ben, ils volent. Et ils sont là pour le plaisir, mais le plaisir ne veut pas dire qu'on ne veut pas gagner. Pour le plaisir de bien jouer, pour le plaisir de bien se dépenser, pour le plaisir d'embêter le Sénégal le plus longtemps possible, dans l'espoir que le Sénégal commettra une bêtise.
Oui, parce qu'on se gargarise en disant que les Béninois n'ont toujours pas gagné un match en phase finale de Cannes, 2004, 2008, 2010, et ici en Égypte, trois matchs nuls en poule et la séance de tir au but face au Maroc en huitième. Mais d'un autre côté, et Michel Dufilier n'a pas manqué de le rappeler, cette équipe du Bénin, elle n'a pas perdu.
Elle n'a pas perdu.
Oui,
non
elle
plus.
A fait des nuls, mais elle n'a pas perdu.
Elle n'a pas perdu les pour Sénégalais, l'instant. Personne ne l'a battu.
Ont perdu un match. Et donc, oui. ça veut dire qu'elle est difficile à bouger. Hein.
C'est marrant parce qu'il y a évidemment en conférence de presse, la question a été posée à Michel Dussuyer, mais plutôt sous l'angle bah, votre équipe n'a toujours pas gagné. Et lui, il a répondu bah, moi, je préfère dire qu'elle n'a pas perdu. Il voit les choses de manière positive. Oui, il a bien raison. Absolument. Il est en quart de finale. Oui, il écrit la plus belle page d'histoire du sport dans ce petit pays qu'est le Bénin et qu'il a bien mérité. Parce que c'est vrai que ces dernières semaines, et on continue à être inquiet pour le Bénin, il a été au cœur de l'actualité, ce pays, notamment au nord, parce qu'il y a eu des enlèvements, parce que politiquement, socialement, parce qu'avec l'arrivée d'une certaine forme de terrorisme, enfin voilà, tout ça fait fuir le tourisme, et ben voilà le Bénin au cœur de l'actualité pour de bonnes raisons, des raisons sportives, pour un exploit que l'on n'attendait pas de lui, et ça c'est formidable, peu importe qu'il y ait eu victoire ou pas, donc c'est ce qui compte.
Oui,
C'est le résultat.
Oui, bien sûr. S'ils peuvent passer, même au pénalty, vous savez que la séance de pénalty a ceci de particulier, qu'on y voit forcément plus de buts que pendant le match.
Quelque chose me dit, Olivier Pont, que vous avez croisé Michel Dussuyer hier en conférence de presse.
Exactement.
Et justement, il commençait à dire, vous savez quoi, sans trop se découvrir, que ces joueurs, ils prenaient confiance et qu'ils y croyaient de plus en plus.
Et pourquoi pas. Mais plutôt que nous, autant l'entendre lui et on en débat après.
Si on est là, c'est pas par hasard. Donc ça veut dire aussi que quelque part, on... je dis pas qu'on nous craint, c'est pas ça, mais on nous respecte. Et je pense que le Sénégal va prendre note, en tout cas, de ce qu'on a montré jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi une dynamique chez nous qui fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de pression négative. Et aussi, on a un petit capital confiance qui, avec les résultats, s'accroît un peu. Donc ça, c'est une donnée importante aussi pour nous. Après, la confiance, on ne doit pas tomber dans la suffisance, mais j'ai suffisamment confiance en mes gars pour que, justement, ce ne soit pas le cas.
Il est prudent, hein. Un petit capital confiance qui s'accroît un peu.
Mais il n'est pas fou, Joe. Il sait bien qui il a en face.
Oui, bien sûr.
Bon, enfin, il le savait aussi avant le Maroc.
Il le savait avant le Maroc, mais... Et il l'a dit, en fait. C'est pas de la crainte, c'est du respect. On respecte l'adversaire pour ce qu'il fait, mais on n'a pas peur. Parce qu'on pense qu'on... D'abord, on pense qu'on peut... Et surtout, on veut le battre.
Bien sûr. Alors, on rappelle que à la technique, tiens, alors que les deux équipes font leur entrée sur le terrain, il y a également Steven Elsley, sans quoi vous ne pourriez nous entendre ici en direct depuis le stade du 30 juin.
Ah, c'est impressionnant. Je suis à côté de lui. Il y a beaucoup de boutons, des rouges, des verts. Je suis un peu perdu. Mais
et il y a la NASA qui est en communication avec lui. Hein. On ne s'en rend pas compte, mais oui. Non, mais Baïkonour d'un côté, la NASA de l'autre. ce gars-là est capable de tout. Formé, bien sûr, à l'école de Nishastri. Castel, Médard Chablaoui, bon, vous le savez, mais il n'y a pas de mal à répéter leur nom, car RFI à la Cannes, c'est une équipe de longue date. Les Sénégalais sont donc sur le terrain, comme les les Béninois, les Sénégalais emmenés par Sadio Mané. Bah là encore, hier, Aliou Cissé a été questionné au sujet des grands joueurs de la CAN. On vous posera une question tout de suite après, Joe. Ziyech a raté la sienne, Salah a raté la sienne. Il reste Sadio Mané. On parle du top niveau dans les grands clubs européens et dans le dernier carré, voire chez les champions d'Europe. Sadio Mané est champion d'Europe. 3 buts dans cette CAN, du bon et du moins bon. Je vous propose d'écouter Aliou Cissé par rapport à son buteur.
Aujourd'hui, je crois que ce qui est important pour Sadio, c'est continuer à se battre pour l'équipe, continuer à faire les performances pour que l'équipe du Sénégal aille de l'avant. Je crois qu'il est dans cet état d'esprit. Mon discours avec lui est clair, c'est donne le maximum que tu peux donner à l'équipe et l'équipe te le rendra. Donc je crois qu'il est dans cet état d'esprit-là. Effectivement, JL c'est parti, Salah n'est plus là. Mais c'est un garçon qui a la tête sur les épaules et il comprend que le collectif passera toujours au-dessus des individualités. Et comme je le dis souvent, c'est un garçon qui apporte beaucoup au collectif et aujourd'hui le collectif lui rend. J'espère pour lui en tout cas et pour notre équipe nationale que ce cap des quarts de finale, on le passera, ce qui serait vraiment une progression pour cette génération-là qui est là depuis 4 ans.
C'est vrai que Sadio Mané, c'est une CAN en demi-teinte, mais en même temps, là encore, les chiffres sont là. Il a certes raté deux pénaltys, il a marqué 3 buts, oui. Il a été décisif. C'est lui le buteur face à Louganda en 8e.
Ouais, donc du coup, ce n'est pas une CAN.
Avec en fond l'hymne béninois.
Ce n'est pas une CAN en demi-teinte, dans la mesure où il son équipe, il l'a fait gagner, donc il pourrait être meilleur que ça. Mais on peut toujours être moins bien. On en connaît qui sont moins bien et qui sont donc rentrés. On ne va pas lui faire ce procès. Non, je pense que pour l'instant, les chiffres, les résultats parlent pour lui. Il a raté deux pénaltys. Oui, on pourrait les reprocher, mais les pénaltys, ça se joue arrêté. Or, dans le jeu, il est présent. Et surtout, le match commence. On n'est pas nombreux à vouloir une séance de pénalty. Donc,
Et on n'est pas nombreux non plus dans le stade, mais ça, on en a beaucoup parlé depuis le début. Il n'y a pas de raison que ça change en quart de finale. Évidemment, si la question a été posée, hein, Frédéric, c'est parce que pour beaucoup d'observateurs, il est champion d'Europe avec Liverpool. On se dit, tiens, et s'il gagnait la CAN, est-ce qu'il ne pourrait pas devenir le premier ballon d'or africain depuis George Weah, depuis tant et tant de temps, ne serait-il pas temps?
Ça risque d'être difficile. Cela. Je pense que Mo Salah avait une notoriété peut-être un peu plus élevée. Si Mo Salah avait gagné la CAN, peut-être qu'il y aurait eu match. Mais c'est vrai qu'en tout cas, si le Sénégal va au bout, il ne sera pas loin du podium, hein, Sadio Mané, du ballon d'or.
Allez, on va repasser par Paris peut-être, Tom, avant de passer à la composition des équipes.
Exactement, petite pause pour vous. Vous pouvez vous rafraîchir avant ce début de match. Et petite pause pour nous aussi ici à Paris. On se retrouve dans une minute.
RFI, la sélection du monde.
Événement. Fait pétiller la planète foot avec les boissons Planète. Présente dans plus de 30 pays à travers le monde, Planète est un goût fruit. Des saveurs incomparables et des bulles pour un effet rafraîchissant instantané. Planète, c'est l'équipe gagnante. Savourez un monde de foot avec les boissons Planète, partenaire de vos plus beaux instants de foot en famille ou entre amis. Planète, un monde de saveurs.
Si le temps passe, je t'aime autant, tout le temps.
Avec Bank of Africa, fini les transferts d'argent souches. BOA Express, le service de transfert d'argent de Bank of Africa est sans doute le moins cher du marché. Avec BOA Express de Bank of Africa, envoyer de l'argent n'a jamais été aussi facile. Vous pensez transfert d'argent rapide et sécurisé? Pensez BOA Express. Rendez-vous dans nos agences. Mignot Crusaders, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire.